merveilleux réveil à tous, puisque c'est la journée mondiale du compliment. Et bravo Maxime Fayolle pour ce journal.
Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Benjamin Netanyahou rattrapé par la justice, le premier ministre israélien soupçonné de corruption et abus de confiance dans plusieurs dossiers. Le procureur général souhaite l'inculper alors que le pays est à 40 jours de nouvelles élections législatives.
Les manifestations continuent ce vendredi en Algérie. Une partie du pays proteste contre la nouvelle candidature d'Abdelaziz Bouteflika à l'élection présidentielle. Des protestations qui se déroulent toutefois dans le calme.
La rencontre entre Bruno Le Maire et son homologue néerlandais aujourd'hui à Paris. Tous deux évoqueront le dossier Air France KLM et la prise de participation surprise des Pays-Bas. Comment trouver une issue à cette crise? Les explications de Raphaël Ebenstein.
Et puis dans une dizaine de minutes, la question du jour. Maxime, selon le cercle de réflexion CEP, les Français et les Italiens seraient les plus affectés par l'existence de la monnaie unique européenne. Faut-il croire cette étude? On posera la question à Mathieu Plane, il est économiste.
La justice israélienne souhaite donc entamer des poursuites contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou, alors que le pays va connaître dans un peu plus d'un mois de nouvelles élections législatives anticipées. Cette nouvelle pourrait perturber l'avenir du Premier ministre qui brigue un cinquième mandat. Le procureur général israélien compte inculper Benjamin Netanyahou pour corruption, fraude et abus de confiance dans plusieurs dossiers, Étienne Monin.
Ces poursuites marquent le véritable coup d'envoi de la campagne sans apporter de révélation sur le caractère ou le train de vie du Premier ministre, mais en cimentant la thématique du combat ou de la défense des institutions. Le Premier ministre, depuis des mois, se dit victime d'un complot alimenté par les élites de gauche. Il attaque la police, la presse et le procureur. Hier soir, son parti a parlé de persécution politique. Ses principaux alliés dans la course au pouvoir le soutiennent. Il devrait s'installer dans cette posture populiste qui peut avoir un impact fort sur l'électorat de droite, estime Dalia Shenlin, analyste politique.
Peut-être que son score va s'améliorer parce que beaucoup de gens en Israël qui appartiennent à la droite et pas uniquement au Likoud sont convaincus que la gauche mène une campagne motivée par une haine personnelle de Netanyahou ou motivée par le désir de contrôler Israël.
Mais le Premier ministre pourrait aussi payer une trop grande personnalisation du pouvoir, la confusion au fil des ans dans l'intérêt public et privé, son goût pour le luxe. Avant l'ouverture des poursuites, un sondage lui prédisait un décrochage au profit d'une nouvelle formation d'opposition qui a les moyens pour séduire à droite.
Les précisions d'Étienne Monin, le Premier ministre israélien qui a d'ailleurs reçu le soutien de Donald Trump en marge du sommet avec Kim Jong-un à Hanoï. Il fait un excellent travail en tant que Premier ministre, a déclaré le président américain. Peut-être un signe de détente ce matin entre l'Inde et le Pakistan. Les autorités pakistanaises devraient libérer le pilote indien capturé dans le Cachemire après que son avion a été abattu. En réponse, New Delhi est resté plutôt ferme. Nous restons préparés pour répondre à toute provocation du Pakistan. L'ONU appelle à la désescalade entre les deux pays voisins dans la région. L'ONU qui n'a d'ailleurs adopté aucune des deux résolutions soumises hier au Conseil de sécurité à propos du Venezuela. L'une d'origine américaine, l'autre russe. De son côté, le président autoproclamé Juan Guaido annonce qu'il retournera au Venezuela au plus tard lundi, malgré les menaces qui pèse sur lui et sa famille. C'est ce qu'il a déclaré au sortir d'une rencontre avec le président brésilien Jair Bolsonaro. Nouvelle journée de manifestation prévue aujourd'hui en Algérie contre la candidature du président Bouteflika, lui qui brigue un cinquième mandat à la tête du pays à l'âge de 81 ans. Les manifestations continuent dans plusieurs villes. Étudiants, avocats ou journalistes descendent dans la rue. Des cortèges qui défilent dans le calme. Il faut dire que l'Algérie a toujours en tête la décennie 90 et la guerre civile qui a fait 150 000 morts. Ce n'est pas un pays comme les autres dans le monde arabo-musulman, explique le chercheur à l'université d'Assas, Massensen Cherbi. Il est spécialiste de l'Algérie où il s'y trouve en ce moment.
Vous savez, une différence qu'il y a entre l'Algérie et ce qui s'est passé au Moyen-Orient, en Égypte, en Syrie, ce qui s'est passé en Irak, c'est que l'Algérie est un pays profondément homogène dans sa population. Prenez ne serait-ce que la religion, la population est sunnite malikite à 98%. Donc il n'y a pas de grande divergence au sein de la population et d'un côté ou d'un autre, il n'y a pas d'intérêt à exacerber la violence. Il y a l'idée que les Algériens scrutent ce qui se passe au Moyen-Orient et qu'ils veulent à tout prix éviter cette actualité qu'on leur renvoie via les médias. Par ailleurs, ils ont l'expérience des années 1990 qui est un rebutoir. Les forces de l'ordre, ce sont leurs enfants qui manifestent, donc elles n'auraient pas pas intérêt à ce qu'il y ait des débordements sur le plan sécuritaire. Par ailleurs, comme vous le savez, depuis la fin des années 2000, les moyens de communication ont cessé de se développer et le moindre incident peut être relayé dans toute l'Algérie et le monde entier, au risque de totalement décrédibiliser le régime.
Le chercheur et spécialiste de l'Algérie, Massen Sencherbi, interrogé par Thibaut Cavaillès. Une nouvelle polémique dans le monde de l'art contemporain. Et cette fois, ce n'est pas Banksy et son dessin autodestructible, mais une statue du monarque espagnol Felipe VI. La scène se passe à la Foire d'art contemporain de Madrid qui vient d'ouvrir ses portes. Alors la statue en elle-même n'a rien de contestable, mais c'est son devenir qu'il est, Marie-Hélène Ballestero, puisque l'acheteur s'engage à la détruire en y mettant le feu.
La statue géante du roi Felipe VI ne laisse personne indifférent en Espagne. Il s'agit d'une sculpture de 4,5 mètres de haut qui représente le monarque espagnol vêtu d'un costume bleu, une chemise blanche, une cravate verte et des chaussures noires. Une statue hyper réaliste faite de cire avec des cheveux et des produits périssables. Une œuvre objet éphémère que l'on peut acheter pour la modique somme de 200 000 euros. Mais ce n'est pas tout car il y a une clause du contrat de vente très particulière. L'acheteur doit s'engager à brûler la statue dans l'année et envoyer une preuve aux artistes Santiago Sierra et Eugenio Merino. Deux professionnels de la provocation qui se sont inspirés ici des fêtes traditionnelles des Fallas de Valence, où chaque année au mois de mars, on brûle les ninots de grandes sculptures satiriques pour célébrer le début du printemps. Sierra et Merino sont des habitués de la polémique, mais au-delà de la provocation, ils souhaitent mettre l'accent sur la monarchie, une institution obsolète d'après eux qui devrait disparaître. Cette sculpture géante a provoqué de nombreuses réactions en Espagne ces derniers jours. Provocation et mauvais goût pour certains, liberté d'expression pour d'autres. Quant au roi d'Espagne, Felipe VI, il a justement inauguré hier la foire Arco à Madrid. Il a évité de passer devant la statue géante à son effigie. Pour l'instant, la maison royale espagnole n'a fait aucun commentaire sur cette œuvre d'art très polémique.
Les précisions de Marie-Hélène Ballestero à Madrid pour France Culture. Il est 7h07 sur France Culture et c'est ce matin que les ministres de l'économie français et néerlandais se rencontrent après l'acquisition par la Haye de 14% des parts du groupe Air France KLM. Le ministre néerlandais Wopke Hoekstra rappelle que la volonté des Pays-Bas d'entrer au capital d'Air France n'est pas nouvelle. Il n'empêche, cet achat sans en informer Paris a crispé la relation entre les deux pays, Raphaël Ebenstein, tout comme il a fragilisé la position du groupe en bourse.
Trouvons ensemble une porte de sortie. La formule très diplomatique employée hier par Bruno Le Maire témoigne d'un léger radoucissement après l'agacement, voire la franche colère à peine dissimulée lorsqu'il a découvert l'opération néerlandaise mardi soir. L'heure est quand même toujours à la demande d'éclaircissement de la part des Pays-Bas. Pourquoi cette montée au capital au niveau de celle de l'État français? Pourquoi avoir agi en catimini dans le dos de la France? On est tombé de l'armoire, confiait-on ainsi dans les couloirs de Bercy. Et du côté d'Air France, on souhaite visiblement dépassionner le débat et on s'interroge sur le contexte. Le gouvernement néerlandais ne mènerait-il pas avant tout une opération de communication interne à 3 mois des élections européennes pour tenter de démontrer une forme de patriotisme économique? L'opération n'est pour l'instant pas payante, en tout cas pour les Pays-Bas, puisque l'action Air France KLM a encore perdu plus de 3% hier à la Bourse de Paris, après un véritable plongeon de 12% la veille.
Raphaël Ebenstein et la réunion entre les deux ministres débutent dans une heure à Bercy. Après plusieurs mois de forage au large de la Guyane, Total annonce la fin de l'exploration pour trouver des hydrocarbures. Aucune ressource n'a été trouvée. Un arrêt préfectoral prévoyait 5 forages, mais la suite de ces travaux offshore n'était possible que si le premier d'entre eux était concluant, ce qui n'est donc pas le cas. Total annonce qu'il pourrait s'agir là du dernier puits d'exploration en France, ce dont s'est félicité sur Twitter le ministre de la Transition écologique François de Rugy. Au procès Nemouche à Bruxelles, les plaidoiries de la défense se sont tenues hier. Les avocats du djihadiste français ont tenu leur ligne, à savoir Mehdi Nemouche n'est pas l'auteur de la tuerie du musée juif de Bruxelles, mais il a été piégé par les services iraniens dans le cadre d'une opération contre le Mossad. Une défense qualifiée de pure fantaisie par l'avocat du musée juif de Bruxelles. Le verdict dans dans cette affaire doit être rendu dans une semaine, le 7 mars.
7h09 sur France Culture, la suite du journal de Maxime Fayolle. L'Académie française ouvre la voie à la féminisation des noms de métiers.
Il est donc désormais admis de dire ou d'écrire écrivaine, professeur avec un E ou encore autrice. C'est un changement important pour l'institution qui s'était toujours refusée à cette idée par le passé. Mais cela ne modifiera pas vraiment les habitudes de tous les jours, explique le linguiste Bernard Cerchiglini, professeur à l'Université Paris 7.
En France, dans la conversation, dans la presse, dans la langue administrative ou technique, on féminise depuis déjà de nombreuses années. Sauf à l'Académie française. Quand, en 1984, on a fait une première tentative timide de féminiser, l'Académie française s'est violemment opposée. Elle est conservatrice par principe. Hein. Je crois que les raisons sont nombreuses. Il y a eu une certaine misogynie de la part des ténors de l'Académie à l'époque, comme Maurice Druon, malheureusement. Hein. Mais plutôt, une crise d'identité. L'Académie s'est rendue compte que le français était mondial. Ça devrait être une joie pour elle. Ça a été aussi un peu un chagrin parce qu'elle ne pouvait plus régenter cette langue mondiale et qui lui échappait. Le président de la République a dit le 20 mars dernier, le français s'est au fond émancipé de la France. Il s'est aussi un peu émancipé de l'Académie française qui a mis plus de 30 ans à résoudre cette crise d'identité. Je crois que maintenant elle est ouverte à la variété mondiale et sa décision d'aujourd'hui le montre.
Le linguiste Bernard Cerchiglini, dossier complet à retrouver sur franceculture.fr. On va prendre un peu de hauteur pour terminer avec le Canada qui veut se rendre sur la Lune. C'est ce que déclare le Premier ministre Justin Trudeau. Le Canada s'est en effet associé à la NASA pour participer à la confection d'une station qui sera placée en orbite lunaire. Elle servira d'avant-poste pour une présence à long terme sur la Lune, mais aussi de rampe de lancement pour aller sur Mars, s'est enthousiasmé Justin Trudeau. La mise en orbite est prévue pour 2026 et un prochain voyage sur la Lune en 2028. Retour sur Terre avec le temps de ce vendredi 1er mars et de la pluie, principalement dans l'est du pays. Il y aura même de la neige en montagne, ouais, selon Météo France. Des averses concentrées en matinée sur le nord. Matinée assez grise globalement. Attention, dans la région lyonnaise, la circulation différenciée reste en vigueur aujourd'hui après les épisodes de pollution. Côté température, comptez de 4 à 11 en moyenne ce matin.
C'est ce qu'on appelle un atterrissage. Merci beaucoup. Exactement. Maxime Fayolle, 7h12 sur France Culture. Dans quelques instants, Euro, qui sont les gagnants et les perdants de la monnaie unique? À la suite d'une étude allemande, une étude qui fait polémique.